Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. On parlait du jardinier qui s'en fout, il est avec nous aujourd'hui. Globo, ça va?
Mais oui, bonjour.
Mais franchement, ce jardinier qui s'en fout,
il a ta voix.
On s'en fout.
Vas-y.
Je m'en fous.
Donjon et Dragon,
je m'en fous.
Ça me fait bien.
Jeu de rôle quand même.
Mais je m'en fous.
Je m'en fous aussi. Magnifique, il est beau. Globo est avec nous, Flavie est avec nous, ça va la pêche?
Bonsoir, la pêche, la banane. J'ai ma voix de quand j'arrive gentiment... En octobre et que je peux commencer à chanter du jazz.
Salut,
ça va.
Géraldine, est-ce que tu chantes du jazz aussi là?
Oui, bonsoir.
Oui, ça va, c'est pas mal.
Oh, c'est beau ça. Ouais. On peut faire un moment doux, un moment soft.
Ouais.
Je suis en train de pour le podcast. C'est parce que t'as pas laissé les machins sur lesquels on pouvait appuyer.
On est avec Sian aussi pour ce moment doux.
Sian, elle peut vous faire la castafiore.
La castafiore de Sian.
Bonsoir.
Et c'est vous deux, Sian et Globo, qui nous ramenez le jeu qu'on va tester ce soir. Il s'agit d'un jeu de deck building, paraît-il, qui s'appelle
A Touch of Evil Dark Gothic. C'est pas dit avec l'accent anglais. Hein, mais...
D'accord, ok.
Qu'est-ce que j'allais dire?
Comment t'as découvert ce jeu, Globo? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, le thème du jeu, on joue des chasseurs de monstres fin du 19e. Et donc, on va construire nos decks pour tuer les monstres. Et à la fin de la partie, chaque carte a une valeur. On compte. Celui qui a le meilleur deck avec le plus de valeur dedans remporte la victoire.
Ok.
Et moi, j'ai découvert ce jeu-là parce qu'on fait une semaine de jeux de rôle pendant les vacances avec des gens qui font plein de jeux de rôle avec nous. Et quand on ne fait pas du jeu de rôle, on fait des jeux de plateau. Et il y avait ce jeu-là. Et on est un petit peu fan avec Sian en ce moment de jeux de deck building.
Oui,
notamment Shards of Infinity. Voilà. Un commentaire
dire.
Sur Shards of Infinity?
Le seul, l'unique, le meilleur.
Ah ouais, d'accord.
Voilà,
okay.
voilà. Et du coup, c'est un autre deck building qui est sympa aussi et qui est assez méconnu parce qu'il n'a pas été traduit en français.
Mais non.
Il n'a pas été publié en France, donc il faut l'acheter à l'étranger, bien que le jeu soit de 2014.
Voilà. Et est-ce que tu connais un petit peu la team qui fait ce jeu?
Alors absolument pas du tout.
Apparemment, en fait, c'est une team de Kickstarter assez célèbre. On fait pas mal de Kickstarter à succès, dont, comment tu dis, le jeu, il s'appelle comment? Gothic Dark. Et avant, il a un nom.
Dark Gothic, A Touch of Evil.
A Touch of Evil, il me semble que c'est un jeu, en fait, plus grand. Un grand jeu de société. Alors j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas fini mes recherches à ce sujet. Mais ils sont connus parce que dans leur DA, leur direction artistique, ils utilisent beaucoup d'images et de photographies qu'ils font eux-mêmes avec leurs accessoires de GN. Et donc
en fait,
c'est, alors je sais pas si dans les cartes.
Si tu vas voir, ça se ressent et c'est exactement ça.
Ouais, et donc ils font tout, ils font des jeux améritrash avec plein des grands plateaux, beaucoup de jets de dés, tu vois, des choses du genre de le premier. Aurora Arkham, tu vois, le premier jeu de plateau très, très grand avec beaucoup de matériel, etc. Et donc, ils ont fait des Kickstarter à succès monstrueux, en fait. Et c'est Jérémy Klein qui me racontait tout ça. Et que lui, justement, il suivait cette team-là depuis très très longtemps et qu'il trouvait que leur jeu était intéressant. Même si, disait-il, c'est de l'améritrash, il faut aimer ça, mais... Voilà. Et donc, je suis bien content de découvrir...
Heureusement que t'as précisé ce qu'était l'améritrash, parce que moi, j'étais parti très loin. Hein. Ah ouais, on veut faire de l'améritrage, trop bien.
Oui, tu sais, c'est cette fameuse distinction entre l'améritrage et le jeu allemand.
Il y a deux courants, voilà, le jeu allemand ou Eurogame en général.
Eurogame, ouais. Rappelle les deux courants parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de
cette l'améritrage. Le background est important, il y a beaucoup de matériel, des figurines, plein de plateaux, etc.
Ouais.
Et l'Eurogame, c'est généralement des jeux un peu plus minimalistes.
Minimalistes, abstraits.
Ouais, et souvent, quand on se fout un peu de la gueule des Eurogames, on dit c'est cube en bois et...
Exactement.
Voilà,
ouais.
Et compagnie.
Je ne sais pas si cette distinction elle vaut encore aujourd'hui, en fait. Tellement les genres se sont mélangés, tellement le jeu de société a explosé dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'était une distinction qui était très très utilisée. Je me souviens que notamment on en avait parlé avec Monsieur Fall et Mops à l'époque où on avait fait le podcast avec Trick Track. C'était des thèmes qui étaient revenus. Et donc, pourquoi est-ce que, à part le fait, bien sûr, que tu aimes le deck building et tout ça, tu as reconnu des passions rôlistes dans Gothic Dark ? Enfin, il y a quelque chose qui t'a...
Non, pas spécialement, mais il y a une vraie ambiance. Et je crois qu'en fait, voilà, j'aime bien le jeu type deck building, j'aime bien.
Ok, et qu'est-ce que tu connais d'autres comme... T'as joué à Dominion, par exemple, ce type de
Alors, moi, j'ai un vieux Dominion, mais on y a peu joué parce qu'en fait, on s'emmerde un peu à Dominion.
D'accord, ok, ouais.
Ah, c'est attention, hein, c'est tout à fait personnel. Hein, ouais. Moi, je... Et en fait, il y a le fils de ma chérie qui est guide de trek au fin fond de la Patagonie, qui est revenu et qui nous a fait découvrir Shards of Infinity. On l'avait fait jouer à Dominion et il a dit non, mais avec ma copine, on joue un autre jeu de deck building, c'est vachement mieux, ça s'appelle Shards of Infinity. Et c'est comme ça un peu qu'on a mis le doigt dedans. Quoi.
D'accord, ok.
Après, il nous a fait jouer à Clank. Voilà. Et donc, Dark Gothic, bah, c'était cet été.
Ok.
Pendant ma semaine.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement les mécaniques ? Alors, comment ça se passe ? Tu m'as parlé d'un marché au milieu de la table.
Eh bien, c'est un peu le dispositif de base. Il est assez semblable à celui de Shards of Infinity, c'est-à-dire qu'en permanence, il y a 6 cartes au milieu de la table qui sont à l'achat du joueur qui a la main pendant son tour.
Comment on achète les cartes ?
Eh bien, il y a des ressources. Il y a trois ressources, une ressource de combat, une ressource d'intelligence et une ressource un peu de spirituel. Et les cartes ont des prix et c'est la combinaison de ces ressources qui va permettre d'acheter les cartes.
Ok, c'est Anne.
Et comme dans Shards of Infinity, en fait, le joueur a un deck de base dans la main.
D'accord.
Avec justement les cartes, uniquement des cartes qui peuvent donner des points pour acheter.
D'accord, ok, ouais. Donc au début, il ne dispose que... Alors qu'est-ce que sont ces ressources ? Je ne vois pas tellement... Et quel lien avec la thématique de l'investigateur
Ben, c'est cette ambiance. L'investigateur, des fois, il va avoir à combattre des monstres. Donc il a une ressource de combat. Il va avoir à mener des enquêtes. Donc il va avoir une ressource d'esprit, d'intelligence. Et puis c'est un monstre... c'est un monde un peu paranormal avec des esprits, des vampires, des fantômes, etc. Okay. Et donc il a une ressource spirituelle un peu dans l'esprit, spiritualisme début du siècle. Quoi.
Okay. Et c'est vrai que j'ai l'impression depuis Dominion, en gros, il y a des marchés et t'achètes des cartes. C'est vraiment la mécanique principale du deck building à l'heure actuelle.
Ouais, pour faire du deck building, ça revient souvent cette mécanique-là.
C'est clair, parce que même le jeu de rôle, le jeu de deck building des Chevaliers du Zodiac que j'ai ici à la maison, c'est le même système, alors que ça n'a rien à voir avec les Chevaliers du Zodiac ou quoi, tu vois, c'est curieux. Est-ce que vous avez vu des deck building qui marchaient autrement récemment ?
Alors, je ne suis pas encore expert dans toute la panoplie des deck building, mais
de ce que
tu as
fait, toi qui aimes bien justement le deck building, enfin vous qui aimez bien le deck building, la sienne.
Entre Shards of Infinity et Dark Gothic, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la mécanique d'avoir des ressources, ouais. D'acheter des cartes qui sont au milieu de la table, cartes qui sont au milieu de la table avec les ressources qu'on a dans la main, ouais. On défausse ensuite les cartes, etc.
Ouais. Et tu peux cramer tes cartes pour affiner ton deck.
Voilà, tu peux également te débattre, tu as des cartes qui te permettent de débarrasser aussi de cartes trop basses, qui sont juste bonnes au départ, mais qui ensuite ne t'apportent rien de particulier.
Ouais.
Maintenant, techniquement... je trouve que c'est vraiment tous les jeux de deck building, tu pourrais pratiquement les jouer avec des pions, des bouts de bois, ou tu vois ce que je veux dire ?
C'est-à-dire
qu'en fait, ce qui est important, c'est tout le lore qu'il y a autour, tout l'environnement, toute l'histoire que ça raconte, par le biais de l'illustration des cartes. Et par le biais de, en effet, toute l'histoire, tu vas avoir en effet des gens qui sont plutôt investigateurs, tu vas pouvoir acheter des cartes qui te permettront de détruire le boss, qui vont avoir une histoire un petit peu, mais qui quelque part, la réalité, c'est qu'en fait, elles vont te donner deux couleurs vertes, sachant que le boss doit être tué avec trois couleurs vertes, donc il faut que tu en récupères une autre. Mais c'est vraiment toute l'histoire qui est faite autour, qui est décrite, toute l'ambiance qui est générée par les illustrations.
D'accord, ouais.
Qui va faire toute l'histoire, okay, et toute la grosse différence.
Ok. Et Gothic Dark, de ce point de vue-là, vous le trouvez réussi, c'est aussi
possible. Ouais, et l'autre intérêt, moi, que je trouve au jeu, c'est que je trouve qu'on est un peu dans le PVPVE, c'est-à-dire qu'on est en concurrence avec les autres joueurs, puisqu'à la fin, il faudra avoir le deck le plus puissant, mais l'objectif, il est commun, qui est de détruire les monstres, les boss, en fait, avant une espèce d'horloge de l'Armageddon qui pourrait nous faire perdre.
Ah, tu vois, okay, ouais.
parce que je pensais à toi qui n'aime pas jouer à plusieurs, à des jeux qui pourraient s'apparenter à des duels, c'est-à-dire des jeux où tu ponces les points de vie du mec en face. Ouais. Là, en fait, tu ne t'en prends pas directement, ou tu n'es pas obligé de faire perdre les autres pour gagner. Tu vois.
D'accord, ok. Parce que oui, alors, le nom exact de ce type de processus, c'est le multi. Moi, ce que je disais, c'est le multi. C'est-à-dire, typiquement, tu joues à Magic à 5, par exemple, et du coup, c'est ces mécaniques où, à un moment donné, parce qu'il y a quelqu'un qui domine, il va devenir l'homme ou la femme à abattre, et du coup, tu vas te retrouver avec le meilleur joueur ou la meilleure joueuse qui va se retrouver la cible de 4 autres personnes. Et ça, je déteste ce genre de dynamique sociale dans lequel le meilleur se fait tuer parce qu'il y a une dynamique sociale qui fait bah, « comme t'es le meilleur, on doit te faire taire, et voilà, tu vas être le premier. » En fait, à la fin, c'est celui... Finalement, c'est plus un jeu de mécanique, et c'est plus un jeu, en fait. Ça devient un jeu très social où finalement, c'est celui qui a la plus belle gueule ou celui qui s'en sort le mieux dans le bagou qui va s'en sortir. Et ça, je déteste ça. C'est des jeux qui me rendent super mauvais joueur. Donc là, ça m'intéresse ce que tu dis. Sian, tu voulais ajouter un truc ?
Oui, qu'en fait, dans Shards of Infinity, on joue très souvent à deux, parce qu'on peut aussi avoir des modes coop, etc. Et ça, je m'en suis bien aperçue l'autre fois, on a joué avec des copains, on était 4, je crois, à jouer. Et là, en effet, quand tout le monde décide, même sans se concerter, qu'il y en a un qui va tout prendre sur lui et qu'on va le démolir, c'est absolument imparable, c'est ouais. épouvantable, c'est du massacre. Et ça, on peut moins l'avoir avec Dark Gothic, dans la mesure où les cartes, t'en as en effet, qui peuvent te permettre de gêner l'adversaire, etc. Mais t'as moins ce côté, tout le monde dessus et on récupérera les os.
D'accord, ok, ouais.
Et surtout, il y a des cartes, par exemple, qui disent, bah voilà, tous les autres joueurs à la table doivent discarder une carte de leur main. Mmh. Mais c'est rarement, c'est pas ciblé sur une personne, tu vois. C'est tous les autres protagonistes. Donc tu peux construire un deck où tu vas embêter les autres, mais tu ne t'en prends pas à une personne
c'est
en
ça.
Particulier.
C'est ça.
En gros, c'est des BZ, hein. C'est tous des combattants, mais tout le monde a envie d'être aussi fort que Sangoku. Mais il faut tous se défoncer le méchant.
Mais, ouais, oui, alors oui, tout à fait. C'est un groupe, en fait, un collectif qui est contre un ennemi commun, si je comprends bien, mais chacun veut être quand même celui qui
le meilleur,
brillera le plus dans le collectif. Excellent, ok. Et bah, c'est parti, on va playtester tout ça. Merci beaucoup. Tiens, va prendre le micro. Vas-y, prends le micro, raconte-moi. Raconte-moi ce que ta sensation de partie. Tu disais que c'était différent à 6 qu'à 2. Vas-y.
Ouais, ça a à peu près rien à voir. J'ai pas eu l'impression de jouer à la même chose.
D'accord, ouais.
En fait, à 2, c'est vrai que tu vas calculer, mais c'est surtout cette histoire de cartes qui doivent être mises à la Shadows.
D'accord, ouais.
Et du coup, ça, c'est vraiment le coup près quand on se rend compte qu'on est presque à 10. Alors, quand on est 6 autour de la table à acheter tous des cartes avec le risque qu'il y en ait de mis à la Shadows.
Voilà, alors on explique rapidement la Shadows, c'est un stock de cartes qui vont aller au fur et à mesure de la partie dans la Shadows, c'est une zone du jeu. Quand il y a 10 cartes dans la Shadows, eh bien on a perdu.
La partie est terminée.
Donc plus, si à un moment donné dans le deck, on retourne une carte qui nous fait mettre des cartes à la Shadows, eh bien ça nous approche de la fin du jeu. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes perdu. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est fini après, quoi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, on a eu une carte qui disait « Chaque joueur et joueuse mettent une carte de sa main dans la Shadows. » Or, comme on était 6... Ça faisait déjà tout de suite 6 cartes dans la Shadows et donc on était déjà, dès le tour 1, on était déjà mort.
Dès le premier
mort.
Tour, on partait quand même nettement avec handicap.
C'est ça, ce qui est hallucinant déjà, comme façon de jouer. Fly, sensation à chaud comme ça
Je suis partagée.
T'as plus de voix par contre, ça c'est...
Ouais, j'avais prévu en début.
Ouais, c'est clair.
Non, alors... Il y a des trucs que j'ai trouvé cool dans le jeu, il y a des trucs que j'ai trouvé moins cool, mais je pense parce qu'on est à 6, je pense que c'est un jeu qui joue max à 4 en fait. Mmh. Je pense qu'on attend trop longtemps que les autres jouent en fait. Mmh. Et comme il n'y a pas d'interaction entre nous, notamment parce que dès le début en fait on a tiré les cartes Shadow qui avaient 5, du coup ça devenait compliqué de vouloir pourrir les autres et tout, donc c'était pas possible.
Ouais.
Donc du coup, moi je sais comment je suis un peu dissipée du coup quand je m'ennuie. Et j'étais à côté de Géraldine et de Sian. Donc Donc en fait, j'ai papoté.
Ouais, ouais d'accord.
Quand Géraldine se concentrait, je me tournais vers Siane. Et quand Siane se concentrait, je me tournais vers Géraldine.
D'accord, ok.
Donc moi, potentiellement, j'ai passé une bonne soirée. J'étais très bien entourée.
Mais c'est pas grâce au jeu, quoi.
Mais sinon, le jeu, rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas possible de prendre. En fait, le truc que t'as dit à un moment, de dire, Romaric, arrêtez de prendre les cartes au milieu. Parce qu'en fait, on est en train de faire monter la shadow. Je l'ai vu dès le début du jeu. Donc moi, dès le début du jeu, je me suis empêchée de prendre des trucs dans la shadow et j'ai commencé à épurer mon deck.
Prends une chaise, Antoine.
Mais du coup, j'avais un deck un peu merdique avec des cartes où j'arrivais jamais à monter les trucs. Et en fait, j'ai vu assez rapidement que j'allais perdre. Et donc, j'ai mangé des Mahomam. Voilà.
J'ai eu exactement la même tactique.
Ok, d'accord, très bien. Alors, on va peut-être rapidement donc expliquer que Antoine nous a rejoint dans ce podcast. T'étais pas là à la présentation, mais tu t'es ajouté, t'es descendu de ton pieu là et t'as dit mais vas-y quoi. Moi,
non, moi je mangeais une banane et je fais vous faites quoi les gars et bah, tu veux venir jouer. Je dis bon, allez,
je m'en fous. Allez, on y va. Donc du coup, ok. Donc on est avec Antoine aussi. Rapidement peut-être expliquer quand même les mécaniques du jeu très très rapidement. J'imagine que je m'y colle parce que tout le monde est fatigué, c'est ça. Je vois sur les visages.
C'est toi le patron.
D'accord.
C'est toi qui vas t'y coller. Allez. Pour moi, parce que je pense que si j'explique, j'ai déjà plus de voix. Alors
donc,
là,
chaque
ensuite,
joueur d'abord tire une fiche de personnage. Sur cette fiche de personnage, il va y avoir les premières cartes de son deck. C'est-à-dire que sur la fiche de personnage est indiqué avec quelles cartes on commence dans son deck. Sachant que ces cartes sont des ressources. On a des ressources de trois types. Des ressources rouges, des ressources vertes, des ressources bleues et des ressources jaunes. Alors non, sur la feuille de personnage, vas-y, globalement, t'entends pas.
Jaune,
sur la feuille de personnage, il y a une caractéristique honneur qui est jaune. C'est quoi alors, du coup?
En fait, honneur, c'est le nom de la carte. La carte s'appelle honneur. Et cette carte honneur, quand tu la joueras, elle te permettra de piocher une carte et de disposer d'une ressource colorless.
Ah, c'est génial. Ok. Alors, c'est pas colorless. C'est multicolore, la ressource, qu'il faut dire. Elle n'est pas incolore,
yes.
Cette ressource.
Oui,
elle prend la couleur de ton choix, d'accord ? C'est important parce qu'au début, tu nous l'as expliqué comme étant de l'incolore et ça a créé un tout petit peu de confusion en début de partie. Et en fait, vraiment, c'est qu'elle est multicolore. Elle est encore mieux qu'incolore, tu vois, en un sens. Donc, du coup, par exemple, si vous avez un perso qui est très fight, donc vous tirez un personnage fight, eh bien, vous allez commencer avec 5 ressources rouges, par exemple, 3 ressources bleues et 2 ressources vertes. Parce que le rouge, eh bien, c'est le combat. Le bleu, c'est, rappelle-moi, Globo, rapidement.
C'est l'esprit, spiritisme.
Le vert, c'est
l'intelligence.
L'intelligence, c'est ça. Et donc, du coup, en fonction du personnage que vous prenez, si vous êtes un prêtre, vous allez avoir plus de ressources bleues que de ressources vertes et de ressources rouges. Si vous êtes un intellectuel, un investigateur, vous allez avoir plus de ressources vertes, etc. C'est-à-dire que vous aurez 5 cartes qui produisent du vert dans votre paquet. Chaque tour, chaque joueur va piocher 6 cartes de son paquet.
D'ailleurs, à ce propos, moi j'avais un personnage où j'avais directement, très très déséquilibré, où j'avais directement 7 verts. Mauvaise pioche, tous les monstres qu'on a eus, il fallait du rouge pour le buter. Voilà.
Oui, mais non, parce qu'avec du vert, comme tu as beaucoup de fois, parce que quand tu... Alors, donc c'est là qu'on explique une autre mécanique du jeu, c'est qu'avec 3 cartes de la même couleur, vous pouvez acheter un training, c'est-à-dire une carte qui vous donne une ressource double... dans la couleur de votre choix. Donc
c'est
de
ce
rouge,
que j'ai fait pendant tout
bleu,
le jeu, mais n'empêche que comme j'avais quasiment rien pour enlever les cartes 1 merdiques, et ben en fait, à chaque fois, je me ramassais avec des cartes 1 vertes
dans
ma main.
À tout moment, tu peux virer une carte merdique en payant un vert, un bleu et un rouge.
Je l'ai fait à chaque fois que je pouvais.
Voilà,
à un moment, je me suis même mis un manoir. J'ai fait comme je pouvais pour acheter un manoir et avoir un bleu toujours de base. Mais en fait, j'ai pas réussi à avoir de rouge. Qui a chopé tous les rouges 2 là?
Donc,
qui
ouais.
Tout le monde s'est précipité sur les rouges 2 parce que
le premier boss
demandait beaucoup de rouges.
Voilà,
putain,
c'est-à-dire
je vous conchis tous.
C'était un boss, donc il faut comprendre que c'était un boss de combat. Donc les boss, c'est quoi? Les boss, c'est des cartes qui sont au milieu de tout le monde et qui ont des conditions de défausse, de victoire ou d'acquisition. C'est-à-dire que quand vous tapez le boss, quand vous réussissez à le vaincre, vous l'acquérez. Et il devient des points de victoire. Chaque boss, par exemple, les premiers boss étaient 9, 10, 9 points de victoire. Donc c'est beaucoup. Puisqu'à la fin de la partie, c'est Globo qui gagne avec 32 points. Donc un boss représente le tiers de la course pour gagner. Donc gagner un boss, c'est se donner de bonnes chances de pouvoir gagner. En gagner deux, c'est se donner de très grandes chances de gagner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque boss a des conditions de défaite. Par exemple, le premier boss qu'on avait, c'était, pour le battre, il fallait 6 rouges, dépenser 6 ressources rouges et 2 ressources vertes ou 3 ressources vertes. Donc ça veut dire voilà, avoir une main qui vous permette de donner 6 rouges.
De générer
rouges,
autant
voilà.
De ressources. Voilà.
Exactement. Donc ça, c'est un premier élément du game design. Donc du coup, on va utiliser des ressources pour acheter des terrains, enfin des cartes qui produisent plus de ressources, c'est-à-dire que les cartes qui vous rapportent un rouge, vous allez les dépenser pour acheter une carte qui vous rapporte 3 rouges, de façon à ce que quand vous la piochez, vous ayez 3 rouges. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la plupart, en réalité, des jeux de deck building. Dans Shards of Infinity, qu'on avait déjà testé avec vous deux, Globo et Sian, c'était donc, Ah si, mais moi j'ai joué avec Sian en tout cas.
Tu as joué avec Sian, mais
Le podcast. Ah oui, c'est ça, elle nous en a voulu parce qu'on avait fait le podcast sans elle, Sian. Je me souviens qu'il y, avait... y a un bail là-dessus.
Non, elle vous en veut toujours.
Ah d'accord, très bien. Donc Sian nous en a beaucoup voulu, souvenez-vous, chers auditeurs, auditrices, parce que nous avions testé Shards Infinity sans elle. Et dans Shards Infinity, c'est la même chose avec les énergies, je crois, ou les pierres énergies.
Oui.
Voilà, exactement. Donc on a effectivement... Alors, pourquoi tout ça c'est important? C'est parce que elles vous permettent, il y a un marché au milieu de la table, comme aussi dans beaucoup de deck building, qui vous permet d'acheter des cartes. Et donc chaque fois que vous achetez une carte, ça fait venir une nouvelle carte sur le marché. Et chaque carte, lorsqu'elle arrive sur le marché, ou chaque carte, pas toutes, mais quelques cartes ont des effets de trigger, c'est-à-dire d'arriver sur le marché.
Ouais, c'est ce qu'on appelle des mystères.
Voilà. Et ces mystères, ils vont produire des effets. Par exemple, on va piocher des cartes malus qui vont venir pourrir notre deck, qu'on appelle des cartes
Dark Secret.
On va, par exemple, devoir se défausser de certaines cartes qu'on a dans la main. Défausser des cartes qui se trouvent devant nous. Par exemple, des cartes qui se trouvent même carrément dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, quand elles arrivent en jeu, elles disent défausser tous les alliés qui se trouvent dans le marché. C'est-à-dire toutes les cartes qui sont des alliés. Il y a plusieurs types de cartes. Il y a les alliés, les événements, les locations qu'on peut acheter.
Les minions,
plein de trucs. Voilà. Bon, ça, peu importe l'envie. Mais ce qui compte surtout, c'est cette idée, chers auditeurs et auditrices, de quand on achète une carte, on déclenche un événement. Il peut être positif, il peut être négatif. Certes, et là, c'est ce qu'on expliquait avec Sian au début de l'émission, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les premières cartes qui sont arrivées en jeu sur le marché, elles nous ont fait des effets de shadow. C'est-à-dire que chaque joueur devait mettre une carte dans le shadow. Or, si on est à 10 cartes dans le shadow, tout le monde a perdu. Donc on a commencé...
Ça a mis un peu la pression.
Ben, pour celles et ceux qui le comprenaient. Moi, au début, j'avais pas compris, en fait, qu'on était sous pression. Je l'ai compris au milieu du jeu, au moment où, d'ailleurs, je l'ai signalé.
Au moment où t'as dit à tout le monde d'arrêter d'acheter.
Ouais, c'est ça. Géraldine.
Alors qu'il y en a qui ont compris dès le début du jeu et qui ont fermé leur gueule. Hein.
Et qui n'ont rien acheté, et du coup, qui ont perdu.
Ah ouais, d'accord.
Il y en a qui ont raté le côté coopération du jeu, peut-être.
Bah, je sais pas, je m'étais dit que j'allais pas vous empêcher d'acheter ou d'acheter.
Alors toi, t'avais compris dès le début du jeu cette histoire.
Ah, mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais vous avez tous mis.
Ça, c'est incroyable.
Parce que moi, en fait, j'avais un personnage qui me permettait de virer une carte pour empêcher, ça, en fait, incroyable. de mettre une carte dans la Shadow Zone. Et en fait, au moment où j'ai fait ça, vous avez tous mis, c'était le premier tour, je crois, ou le deuxième, vous avez tous mis une carte et j'ai fait, mais on a 5 cartes là.
Ouais.
Et juste après, donc je fais OK. Et juste après, on a tiré une carte au milieu, qui a rajouté encore une carte dans la shadow. Je fais, mais on est à 6, en fait, on va perdre. Mmh. Et je fais, bon, bah, ils ont l'air de s'amuser, on va pas les gêner. Moi, je vais essayer de faire comme je peux.
Non, mais en vrai, en achetant des cartes de ressources qui ne faisaient pas venir des cartes du marché, tu pouvais tout à fait te faire plaisir, t'amuser. Et...
Ouais, mais en fait, si tu fais que ça, ce que j'ai dans mon deck, moi, quasiment, il y a juste un moment, j'ai acheté un manoir et un allié, mais parce que je me suis dit, je prends quand même un risque. Mais en fait, tes cartes ne sont pas assez fortes, tu ne peux pas faire de trigger. Or, tu as besoin de trigger pour faire popper des choses, en fait, et pour pouvoir avoir plus de mana, je vais appeler
ouais,
ça comme
tu ça. Vois, ouais. Je pense donc, que tu voyais bien... nos tours à nous et ton tour à toi. C'est-à-dire que nous, on faisait, bon bah ça, on met trois, on prend deux cartes, après,
c'est bon.
Bon bah celle-là, on la
pioche. Attention à ton micro,
bon, bah,
Géraldine.
C'est bon, pardon. Ouais, c'est bien. Alors que toi, tu faisais, alors attends, je mets celle-là, je pioche deux cartes. Alors du coup, j'ai pioché deux cartes, donc je pose celle-là, je repioche une carte. Nous, on n'avait pas ça, en fait.
D'autant que j'ai vu qu'il y avait des cartes, des minions et des trucs qui se répondaient avec des alliés. Tu peux faire des trucs de fou, en fait.
Des combos,
tu peux faire des combos.
Et du coup, si tu chopes pas de cartes au milieu, comme ce que j'ai fait, bah, tu finis par passer une bonne soirée avec Sian et Géraldine. Voilà.
Mais on était limités, en fait, ouais. C'est vrai que du coup...
Qu'est-ce que t'as pensé du jeu, toi, en termes de rythme, d'ambiance, tout ça, Géraldine?
Tu
partages l'avis de Flavie, je pense.
Ouais, je pense. Oui.
Après... On a passé une bonne soirée, Mahomam, elle et moi.
Mahomam. C'est bonbon très sucré.
Trop sucré.
Ouais, trop, beaucoup trop.
Mais après, je pense que c'est intéressant, mais effectivement, alors soit il faudrait peut-être que la Shadow, quand on est 6, dise bon bah la Shadow elle est 15, ou enfin je sais pas, pour
toujours des bonnes idées, Gérald.
Pour qu'on puisse, non mais pour qu'on
embaucher la comme playtesteuse. Non mais elle a raison, je pense.
Pour qu'on puisse se dire bon bah ok, on peut continuer à jouer avec les cartes du milieu et le marché quand même et avancer un peu et puis du coup en plus comme on a chopé tous des Dark Secrets au début, moi j'en avais 4, c'est-à-dire qu'il y a un tour j'ai pas joué. Donc parce que j'ai sorti ma Dark Secret, on m'a dit bah vous enlevez toutes les cartes de votre main. Bon bah ça c'est fait. Donc après super, j'ai deux Dark Secrets. Bon bah génial. Vous enlevez toutes les cartes de votre main. Bon bah ok. Bon bah voilà, ça fait deux tours que je fais rien.
Ah c'était horrible.
Mais
c'était triste pour toi. Hein.
Ouais après c'est pas grave, c'est le jeu et puis ça arrive et voilà. Mais
enfin quand même. Sacré guigne, c'est-à-dire que dès le début du jeu, on commence sur une partie. Déjà on commence la partie, c'est déjà pas cool parce que la partie elle est en vrai, elle est déjà vachement oppressante et donc on va pas pouvoir acheter beaucoup de cartes, donc on va pas pouvoir s'amuser comme vous avez très bien décrit toutes les deux avec les mécaniques du jeu. Mais en plus toi tu fais deux tours à vide où c'est vraiment emmerdant. Moi j'avoue que
oui. Du coup, c'était un peu long. Ouais. Et puis, en fait, moi, j'avais un personnage qui disait bah, quand vous piochez une carte, vous pouvez en piocher deux et en défausser une. Mais du coup, à part mon manoir, à part mon honneur, j'en avais un qui me permettait de piocher une carte, du coup, d'en piocher deux. Bah, en fait, j'avais aucune carte qui me permettait de piocher puisque j'en ai pas acheté. Enfin, j'en ai acheté deux au milieu. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que bah, tout ça fait que.
Aïe.
On a été. Effectivement, moi, j'étais un peu. Enfin, je me disais, on peut. Et puis, la Shadow s'est remplie super vite. On est vite arrivé à 8, on a été toujours au premier boss.
Et c'est un fait qu'augmenter le niveau de la Shadow permettrait d'augmenter un peu la durée du jeu.
Parce que
je pense qu'à 2, quand la Shadow a 10, ça va. Alors que là, en fait...
Oui, tu nous disais que vous aviez rarement, en fait, la Shadow à 10, à
2.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai perdu une fois avec une Shadow à 10 parce que la personne avec qui je jouais, c'est-à-dire le fils de Sian, pensait qu'il perdait. Et donc, il a pris une carte qui lui permettait de piocher, mais il lançait l'Omen Die. Et s'il faisait un crâne, il balançait des cartes à la Shadow. Et en fait, il s'est fait perdre avec cette carte-là. Et après la partie, on a quand même compté les points dans le deck et il s'avère que s'il n'avait pas fait perdre tout le monde, il aurait gagné. Mais il a choisi de prendre cette carte en se disant « Je m'en fous, je suis dans le rouge, il va m'exploser et quitte à pas gagner, je vais le faire perdre aussi. » Et en fait, ça l'a amené, enfin on a tous les deux perdu, mais il aurait gagné s'il n'avait pas eu cette tactique.
Cette tactique étrange, ouais. Ça me fait penser au Val, tu sais, quand tu cherches à lever le soleil bêtement, alors qu'en fait, t'avais la game, quoi. Tu voulais ajouter un truc, Sian ? Je te voyais demander un micro.
Oui, ça rejoint ce que je disais également, à savoir que ça fait partie du jeu, c'est très très difficile de savoir où on en est.
Oui, tout à fait, tu l'as dit dès le départ, ouais. C'est vrai que c'est pas évident, on n'a pas le droit de regarder son deck, hein. À tout moment, on n'a pas le droit de regarder son deck et de le remélanger. À un moment donné, je me suis posé la question pour faire des stats.
Ouais, Rome, il a sorti la feuille Excel, il a fait les stats en pleine partie, il a essayé d'optimiser à mort, c'était impressionnant.
J'ai adoré, franchement, j'ai kiffé ça, j'aime bien.
C'est-à-dire que tu peux toujours compter tes points pendant la partie si tu veux, mais de toute façon, ça ne te dira pas où en est l'adversaire.
Non, tout à fait, ouais. Mais moi, j'ai saisi l'opportunité d'avoir qu'une seule carte que je connaissais, je savais ce que c'était. C'était la location que j'avais achetée, donc le lieu que j'avais acheté. Donc je savais que c'était ça qui me restait à la fin, et donc je savais tout, je pouvais regarder avec ma défausse et ma main, effectivement, et calculer mes statistiques pour savoir ce que j'avais dans les cartes. Toi, ça t'a fait pitié, ça, Antoine, j'ai l'impression, quand j'ai commencé à faire ça.
À faire ton fichier Excel au crayon papier, ouais. Non, moi, globalement, je me suis un peu ennuyé. Bon, ça a dû se voir. Hein. C'est un vieux jeu de 2014, ça se sent. Shadow of the Brimstone. C'est les créateurs de Shadow of the Brimstone. Donc, ceux qui ont joué à ce jeu savent, ils savent, vous savez, nous sachons. C'est un peu chiant comme jeu, quoi, faut se le dire. C'est écrit sur Board Game Geek. La meilleure façon de jouer au jeu, à 3. C'est sur Board Game Geek, toujours, t'as un retour des joueurs et tout ça. Donc, à 3. Après, moi, je trouve que c'est pas du tout un jeu de coop. Ça devient un jeu de coop quand t'es en position de gagner et que tu mets et que t'as besoin des autres pour gagner. Mais un jeu de coop, c'est quand tout chacun de nous a les éléments et qu'on doit les mettre, on doit se mettre ensemble pour gagner contre le jeu. Là, c'est pas ça. C'est pas un jeu de coop. Toi, Romaric, t'as cru que c'était un jeu de coop parce que t'étais en position de gagner. Tu voulais gagner toi. Et t'avais besoin de nous pour pas qu'on fasse perdre. Bah, si.
Non, attends, parce que j'ai plus de micro là. Je suis entièrement d'accord. Hein. Attention. Et c'est juste que du coup, je trouve ça intéressant en fait.
Mais c'est pas un jeu de coop. Pour moi, c'est un jeu à l'allemande.
Pour moi, c'est pas du tout un jeu de coop.
Ça ressemble à Agricola, mais avec des cartes.
C'est ce que j'appelle la coopétition.
Au lieu de mettre des pièces sur le board, qui sont à soi, sur son board, on met des cartes. Voilà. Et il y a de la RNG, puisqu'il y a de la pioche. Donc il y a du hasard. Voilà, et on va essayer
de la RNG.
Random Number Generator.
Non, mais rejoins l'éducation nationale, mec. C'est le moment décisif.
Mais c'est quand on joue aux cartes, la RNG, tout le monde connaît. Les gros cartes, les joueurs de cartes, ils connaissent.
On connaît.
Les puants des jeux de cartes.
Et toi,
les puants qui font des tableaux Excel.
Parce qu'il fait des tableaux Excel.
Oui, c'est ça. J'ai fait un tableau Excel pour mon deck, les gars. À Suali, il y a un taux de drop.
C'est exactement ça. Mais lui, il est marrant parce qu'il se moque de tout ça, mais il est pareil. Hein. Et une fois, je t'ai vu te moquer des gens qui aimaient les cartes premium, mais il a que ça dans ses paquets de cartes, que ce soit à Magic ou à Dragon Ball, super card. Alors, te fous pas de ma gueule, hein, Actually, t'es pire que ce que tu décris, Actually. Bref, toujours, moi je suis d'accord entièrement avec Antoine. Pour moi, c'est un jeu de coopétition, et effectivement, c'est au moment. C'est effectivement ça. Et c'est au moment où tu peux gagner que tu vas avoir intérêt à ce que y ait un peu de coopération. Mais je vous ai dit à un moment donné, mais si vous pensez que vous avez perdu, allez-y, faites-nous tous perdre. Si vous pensez, c'est la stratégie du fils de Sian.
J'étais à deux doigts de le faire.
C'était une très bonne idée à mon avis. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Sian tout à l'heure. Il est très difficile dans les mécaniques du jeu de pouvoir évaluer où on en est. Et c'est ça qui est très intéressant. Je pensais que j'allais gagner, mais c'est Globo qui a gagné au final. Donc, en fait, c'est là que
alors,
je trouve
je
ça très malin.
Je dois dire que moi, vers la fin, j'ai recommencé à acheter des cartes dans la river.
Ouais.
Et j'ai acheté des cartes qui valaient plein de points. J'ai acheté des cartes qui rapportaient 3.
T'as pris ton risque.
J'ai pris mon risque.
T'as pris ton risque. Et alors, c'est ça que... Alors, il y a quelque
et
chose...
Et je suis allé chercher des points.
Et c'est très bien. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très, très malin dans ce jeu. Mais vraiment, il y a, par exemple... Un moment de la partie que je trouve très intéressant et assez significatif du jeu. Antoine me dit bah vas-y, puisque t'as sorti ta feuille, fais des tableaux Excel, bah fais les stats de mon deck aussi. Et je lui dis non, mais va te faire voir. Va te faire voir. Et pourquoi je t'ai fait
c'était
ça?
C'était un troll, hein. C'était pas premier degré.
Non, mais peu importe. Mais attends. Tu rigoles, mais si vraiment c'était ça, d'abord il y aurait un effet leader. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui pourrait faire les stats de chaque paquet et commencer à donner ses ordres et à dire aux gens « Là, à mon avis, il faut que tu prennes cette carte-là, il faut que tu prennes celle-ci. » C'est pas possible. C'est non seulement c'est pas possible, mais en plus, c'est pas souhaitable dans le jeu. Parce que tu veux pas aider ton prochain. T'as envie que lui, il t'aide, mais t'as pas envie de l'aider. Et ça, je trouve que dans un jeu de coopétition, j'ai rarement vu un jeu dans lequel c'est aussi malin que ça, cette mécanique de... T'as envie qu'il t'aide, mais t'as pas envie de l'aider. Et du coup, t'es toujours en train...
C'est-à-dire, t'as envie qu'il t'aide. Comment il t'aide? Juste en faisant pas perdre la partie?
Par exemple, oui. Tout à fait.
Et autre chose, comment il peut t'aider autrement?
Eh ben, en ne prenant pas une carte que t'as envie de prendre, tu peux l'orienter vers une carte que t'as...
Ah, mais là, c'est de la manipulation. Donc, on est dans un jeu...
Il y a aussi une carte. Quand tu l'achètes et que tu la joues, tu gagnes une carte honneur et tu demandes à un joueur de piocher 2 cartes. Donc tu lui files 2 cartes en plus dans sa main.
Voilà.
Et séduction. En contrepartie, toi, tu chopes une carte honneur. Une carte honneur, c'est une carte qui donne une pioche plus un colorless. Désolé, c'est pas du colorless.
Oui, ou un multicolore. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un autre jeu dans lequel il y a ce genre de mécanique, c'est Munchkin, qu'on a beaucoup oublié parce que c'est un très vieux jeu qui est un peu pourlingue maintenant. Mais souvenez-vous de la classe de l'elfe qui gagne 1 point de victoire lorsqu'il aide quelqu'un. c'est une classe qui est très intéressante parce que elle t'invite à dire mais viens moi. Elle t'invite à offrir ton aide, mais en fait, elle est très intéressée, cette aide-là. Et tu vois, cette mécanique de, à la fois, t'es en adversité avec quelqu'un, mais en même temps, t'as envie de l'aider, mais en même temps, t'es en compétition, etc. Cette espèce de, d'entre-deux flottant dans ce jeu-là qu'on a fait ce soir, j'ai trouvé extrêmement bien fait. Et pour un deck building, je suis désolé, hein, mais pour un deck building qui a par ailleurs des mécaniques très classiques, en compétition, etc., cette espèce de ligne très étrange, où toi, Globo, tu vois, tu vas te dire, ok, là, j'ai peu de chances de gagner, mais je vais quand même aller chercher une carte du marché pour faire des points. Peu importe si je perds, allez, j'ai rien à perdre. Donc, tu prends un risque, mais en même temps, c'est ce qui te fait gagner à la fin. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Et, il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans.
Il y a aussi l'effet que vous ne connaissez pas le jeu, mais quand on connaît le jeu et quand on... Si on prête attention... Alors, une des difficultés dans les jeux de deck building, parce qu'on est, on est très tourné vers son jeu, on peut avoir la tentation de ne pas regarder ce que les joueurs oui. sélectionnent dans leur deck.
Ouais.
Et si tu prêtes attention... Si tu connais le jeu, que tu prêtes attention au deck que sont en train de construire les autres, tu as moyen... après, de détruire dans la ligne centrale des cartes qui seraient intéressantes pour les decks des autres.
Et voilà.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ah non, mais complètement. Et attends, alors attends, qu'est-ce que tu dis, Géraldine, en dehors des micros ? Qu'est-ce que vous dites ? Ah, vous parlez pas du jeu ?
Elles continuent leur soirée
ouais,
en duo.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant. C'est...
On okay. est en descente.
Ok, descente de Moa, Mam, miam, miam. Donc, en tout cas, j'ai noté ça. Les interactions, elles sont pas forcément dans le, elles sont souvent dans le négatif dans le jeu. C'est-à-dire que les cartes que tu vas faire, c'est moi je pioche et vous perdez tous des trucs.
Oui.
Donc c'est un jeu. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'appel de Cthulhu en réalité.
Bah, c'est l'appel de Cthulhu, mais avec un deck building.
Eh ben, bien joué, bien joué. Quelque part. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que le truc de vas-y passe devant, je veux être le dernier à voir le monstre. Fais ton jet de San. Tu vois, et moi, je me souviens très bien qu'il y a eu des parties de l'appel de Cthulhu, je te jure, où c'était la partie passe devant.
Pardon, l'appel de Cthulhu, je pensais à Terreur.
À Terreur Arkham.
Horror Arkham,
c'est une licence. Oui, mais c'est une licence Lovecraft aussi. C'est...
Oui, mais c'est un jeu de plateau, c'est ce que je veux dire.
Ouais, mais est-ce que
tu parles du jeu de plateau.
Alors là, je sais pas si. Ok. Non, moi, ça m'a fait penser au jeu de rôle.
Il y a aussi un jeu coop. Hein.
Où tu vas pousser ton copain contre le monstre pour éviter de te le taper, quoi. Enfin, je veux dire. Non, mais vraiment.
C'était trop chiant de jouer à Cthulhu avec toi, Marc.
Mais l'objectif dans Cthulhu...
Jouer pour gagner, je suis sûr.
Non, ouais. C'est perdre le dernier. On disait
souvent que Cthulhu, en fait, le but, c'est pas de gagner, de tuer le monstre, le but, c'est d'être le dernier à mourir.
Et moi, j'ai retrouvé dans Dark Gothic cette ambiance où tu veux gagner, mais en même temps, tu dois, t'as besoin des autres. Enfin, tu vois, c'est... En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un entre-deux qui
Alors,
était intéressant.
Alors moi, en termes d'ambiance, par contre, on s'est retrouvés avec Géraldine à triper et à se dire qu'on avait envie de faire une soirée GN, du coup, par contre.
Pourquoi ?
Parce qu'on tripait sur les personnages et les cartes qu'on avait. On était là, oh, mais je verrais bien François en curé, vas-y, on fait une soirée comme ça.
Vas-y, raconte, Géraldine, de ton impression sur des cartes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de voir François en curé, s'il te plaît, merci.
Parce qu'à côté de moi, il y avait un curé qui lançait des propositions.
C'était Antoine, le curé, qui lance des propositions.
C'était ta carte. Ouais. et moi, j'avais un révérend dans mes cartes qui, lui, se demandait ce que faisait le curé qui lançait des propositions. Et en fait, j'ai trouvé que les cartes étaient des grosses caricatures, enfin, elles étaient bien faites. En fait, c'est des photos, donc c'est génial. C'est des acteurs dessus, c'est ouais. et du coup, il y a vraiment des traits, des façons de regarder, et voilà. Je suis partie.
Alors je crois que la boîte
loin.
Qui fait ça, elle s'appelle Flying Frog Productions. Et c'est ça, Antoine, tu confirmes ? Je voudrais juste pas faire une bêtise.
Oui, c'est ça. Et c'est un hommage clairement au point and click et au jeu PC à l'époque avec du FMV. Voilà. Tous les jeux Cthulhu, il y en a eu plein, Météor, enfin Comet, machin, Phantasmagoria. Le truc où il y a des kidnappers chez toi à la maison là.
Mist.
Ben ça m'a fait vachement penser à Mist.
C'est ça.
Mais à chaque fois que je joue à Mist, moi j'ai envie de faire du GN en fait.
Ouais. C'est marrant quoi. C'est. Ouais.
J'ai envie de faire une soirée une soirée huis clos quoi.
C'est ça, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve faire un crowdfunding avec des images comme ça sur Touch of Darkness, là, le jeu qui sert, en fait, parce que Dark Gothic, d'après ce que j'ai compris, hein, ça a l'air d'être un jeu de cartes qui est tiré de
Hunting Hill machin là. C'était quoi leur premier jeu?
Non,
alors,
c'est écrit dessus.
Shadow of Brimstone,
ouais.
Non,
Fortune and Glory,
c'est un jeu de figurines. Non.
Last Night on Earth.
Et tout ça, c'est des hommages au point and click. Je crois que Fortune and Glory, c'est un truc genre...
Indiana Jones,
oui, mais en fait, l'autre jeu, tu sais, le LucasArts, où tu...
Le Indiana Jones, oui.
Indiana Jones LucasArts, mais il y en a un autre. Ah, comment il s'appelle? Il y a Day of the Tentacle et il y en a un autre, Monkey Island, tu vois, cette ambiance-là, quoi, aventure, point and click, effectivement, et c'est vachement couillu d'avoir...
On parle d'un temps que les moins de 20 ans...
Mais en fait, c'est un hommage aux années 90, clairement.
Les clients de ces jeux de société, regardez, les gens qui consomment du jeu de société comme ça, enfin, je veux dire, ils ont nos âges, ils ont nos rêves...
Attention, c'est notre époque, c'est un jeu qui est sorti en 2014...
En 2014, c'était les rêves de tout le monde.
Non, mais on était en plein dans le Kickstarter sérieux, c'est-à-dire que des gens passionnés et qui faisaient pas ça pour l'argent, ils voulaient juste voir leur jeu financé. C'était cette époque-là, quoi. Bon, après, ça a dérapé.
Et toi, t'avais joué au jeu de Flying Frog Production, à part celui-là?
Oui, j'en ai joué un, mais je me souviens plus ce que c'est le nom. Pareil, tout était en anglais et tout, je me souviens plus.
Et c'était un Améritrash
Ouais, c'est ça, c'est plus sur l'ambiance pour rigoler. C'était ambiance survival Resident Evil.
Oh là là. Mais oui, Resident Evil.
Bah oui, Resident Evil.
Nanar comme ça.
Avec les cinématiques.
Cinématiques, c'est des vrais acteurs.
Ouais, c'est des vrais acteurs.
Putain, exact. Oh là là, mais oui, c'était tellement kitsch. Mais c'est génial de reprendre cette esthétique-là. Et effectivement,
et moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de faire une. Comment ça? Une murder party. Moi, je veux faire une murder.
Ouais. Mais on n'a pas dit oui sur les cartes. En fait, il y a sûrement les gens qui ont fait le jeu, qui ont participé au photoshoot.
Ouais.
On n'a pas décrit, mais sur les cartes, il y a des vrais gens.
Oui,
il y a des photos, un peu ridicules parfois.
Ouais, c'est très marrant, c'est très très marrant. Enfin voilà. En tout cas, du point de vue du look artistique, il est vraiment très design. Géraldine, on peut dire que si t'as pas accroché au jeu, c'est d'abord parce que t'as fait des tours catastrophiques au début ou...
Oui, c'est ça, je pense que...
T'en as vu la complexité malgré tout? Est-ce que
ça te donne
envie d'y retourner ou pas?
Par contre, oui,
tout
c'est pas... Ça m'a pas dérangé comme partie. Moi, je suis très bonne joueuse, donc du coup, regarder les autres...
Tu veux dire bon public, quand tu dis ça.
Ouais, non, puis je veux dire, même... Enfin, perdre, tu vois, ça me dérange pas et tout. Et regarder les autres jouer, ça me fait plaisir aussi. Et justement, comme le jeu, je le connaissais pas... En fait, de regarder comment jouait Globo, enfin ceux qui savent jouer et ou ceux qui ont vite pris le pli, c'est aussi intéressant. Ça permet de voir ce qu'il faut faire, comment il faut jouer effectivement, et puis refaire une partie derrière, ça permet aussi de.
T'as déjà fait du deck building?
Ouais.
T'avais fait du daybreak? Mais... T'avais joué avec daybreak avec nous? Je sais plus si t'étais là. Qui est deck building aussi. Hein. C'est celui où, tu sais, sur l'écologie où il faut arriver au daybreak.
Ouais.
C'est un peu le...
Ouais.
Tu vois,
oui.
Intéressant aussi dans la mécanique.
Ouais.
Et pour le coup, là, on s'était pas ennuyé parce qu'il y avait plein de cartes mécaniques.
Il y avait plein, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, ça dépend, mais...
Par rapport à daybreak, par exemple. Attends, qu'est-ce que vous dites?
On a fait L'Ambition des Rois, qui est un mini-jeu de deck building en 20 minutes. Mais du coup, c'est pareil, on a des petites ressources et
des petits poulets.
Ils sont très bien faits. Et donc, tout dépend des ressources pour acheter des cartes. C'est pareil, en fait. Enfin, c'est vraiment la même mécanique. Pour le coup, tu as le marché au milieu.
Ouais.
En début de ton tour, tu peux dépenser des ressources pour acheter une carte. Ensuite, tu combats ton adversaire qui est en face.
Alors, l'adversaire, est-ce que c'est un joueur ou une joueuse?
Ça joue à deux. Donc tu combats ton adversaire en face et dès que tu l'as combattu en retournant tes cartes, tu peux refaire racheter quelque chose sur le marché.
Et du coup là il y a
qui te donne des
Et du coup là il y a de l'interaction parce qu'on combat contre l'autre.
Ah bah oui c'est ça. Oui et puis ça se joue qu'à deux, enfin tu vois, puis c'est vraiment un jeu rapide. Donc enfin ça nous fait bien marrer.
Parce que je pense pouvoir dire que vous deux, Géraldine et Flavie notamment, c'est le manque d'interaction aussi qui vous a
ennuyé.
Ouais,
c'est ça. En fait, je pense que c'était peut-être trop long.
Et c'est pas fait pour jouer à 6, clairement.
Non, je pense que...
C'est
fait
pour jouer à 4, je pense.
Ouais. Oui,
tu m'as dit, Globo, qu'il y avait une extension du jeu?
Oui, il y a une extension. Ouais.
Est-ce qu'ils ont intégré, par exemple, de pouvoir jouer à 6, mais avec un traître? Parce qu'à mon avis, à 6, il faut que quelqu'un ait un objectif qui est à contre-courant.
Alors,
et là,
ça
devient marrant.
J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que l'extension, elle est dans la continuité. Par contre, dans l'extension, donc, il y a plus de cartes dans le deck de départ. Il y a des nouveaux héros. Il y a des nouvelles mécaniques. qui vont ajouter à la shadow, donc qui vont faire monter la pression, des nouveaux boss.
C'est pour ceux qui ont fait le tour un peu, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas de nouvelle mécanique.
Alors moi, je ne l'ai pas, l'extension. J'ai fait une partie cet été avec. Et donc, c'est ce que j'en ai perçu, quoi. Mais je ne saurais pas en dire plus. Voilà. Par contre, par rapport à l'autre jeu de deck building qu'on appréciait, nous, qui est Shards of Infinity, c'est un jeu d'arc gothique. Quand tu commences à attraper les bonnes cartes, tu as vraiment beaucoup de combos qui se mettent en place.
C'est ce que Romaric avait.
Tu vas piocher dans ta défausse, tu vas piocher dans les défausses des autres.
Tu commençais à avoir
ça, en tout cas.
Tu
vas échanger des ressources contre des autres, etc. etc. Et c'est vrai que à 6, ça dilue beaucoup tout ça.
Est-ce que... moi, je pense qu'il y a un effet vicieux de jouer à 6, c'est que du coup, tu as peur de prendre trop de temps et du coup, tu te dépêches. Tu joues trop vite. Est-ce que quand tu as joué à 2, à 3, à 4, est-ce que vous prenez plus de temps?
Non, ça dépend vraiment des ça dépend vraiment des joueurs. Et y a aussi l'effet quand tu connais les cartes, tu perds moins de temps. Quand tu connais il y a vraiment une courbe d'apprentissage du jeu qui fait que plus tu connais,
plus
tu as
l'autre
vite,
quoi aussi.
Sienne.
Et le fait que les cartes soient en anglais, même quand on est relativement fluent. Moi, je sais qu'à chaque fois, je relis l'effet qui est sur la carte. Et ça prend du coup plus de temps.
Pourtant, les cartes sont assez simples.
Ouais, mais je trouve que... Ou alors peut-être parce que j'ai plus d'affinité pour Shards of Infinity.
Pas facile à dire.
Ouais, c'était joli. C'était un bel exercice de diction.
Ouais, c'est plus...
Je trouve que ça
vient
plus
picto,
vite.
C'est très picto, Shards of Infinity, dans mon souvenir.
C'est très, pardon ?
Très pictogramme. C'est des des pictogrammes dans
Shards
of Infinity.
Oui, et puis c'est vraiment en moins de mots.
Bah oui.
Là, ils font un petit peu, je dirais pas que c'est texte, c'est moitié texte d'ambiance, moitié information sur le pouvoir de la carte. Ouais. Et du coup, je perds plus de temps.
Moi qui
suis... Parce que l'autre jour, on a joué à Shards of Infinity tous les deux, Romaric. Oui. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à Globo, la vitesse à laquelle tu joues, c'est un peu toujours impressionnant. Et moi, je me suis complètement calqué sur ta vitesse et on peut y jouer très très vite.
Ouais, moi je trouve ça agréable
et
très
correctement. Ouais.
Mais tu sais, c'est comme aux échecs, les parties speed party en fait. Parce que souvent, on les gros cerveaux, ils réfléchissent des heures, etc. Et souvent, quand même, la montagne est la couche d'une souris, quoi. Il n'y a rien de mieux que speeder, en fait, faire des parties... Non, mais il vaut mieux faire trois parties. Alors, d'un point de vue stratégique et apprentissage, il vaut mieux faire trois parties rapides en commettant des erreurs que de faire une seule partie en se prenant la tête pendant des heures et en fait, en faisant de toute façon des erreurs. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, quand on playtest un jeu comme ça, moi, j'aurais kiffé qu'on se dise, allez, on joue vite, quitte à en refaire une deuxième. Et puis après, éventuellement...
Mais là, on pouvait pas faire beaucoup plus vite, franchement...
Non, parce qu'il y avait il fallait qu'on apprenne.
Il y a une période d'apprentissage. Ouais.
Oui,
il y a quand même plein de micro-règles.
La troisième ronde, on était OK, quoi.
Ah bah, clairement, ça allait hyper vite. À la fin, j'ai trouvé que les tours de jeu allaient... Et d'ailleurs,
parce qu'on n'achetait plus au milieu.
D'autant plus que Fly et Géraldine jouaient quasiment pas. Je peux dire que ça a accéléré la partie.
Finalement, vous jouiez à 4.
OK, peut-être.
Non, mais du coup,
moi, je lisais même plus les cartes.
Mais le fait d'aller trop vite fait que tu es déjà en train d'analyser ta main suivante pour ton prochain tour et tu regardes pas ce que font les autres parce que ça va trop vite.
C'est pas vrai. Justement, je trouve pas. Je trouve que tu gardes la concentration d'observation, d'être là. Quand ça joue vite, en fait, tu vois bien ce que font les autres. Il n'y a pas de perte de temps. Parce que les problèmes des gens aussi qui passent du temps à réfléchir, c'est qu'ils sont toujours là. Alors, je dépense 2 verts, 1 rouge, 1 bleu. Ah non, attends, je reviens en arrière. Non, mais c'est illisible, en fait. Vas-y, quoi. Fais ton action, en fait. Enfin, moi, c'est ça aussi, c'est que il faut jouer vite, en fait. Je suis désolé, je vais faire le vieux. Il faut jouer vite à la bleue.
Non, mais tu me fais rire, mais moi, en fait, j'ai lâché l'affaire de vous regarder jouer aussi. C'est horrible, je me fais l'effet de la nana qui a vraiment fait sa rageuse, mais c'est juste qu'à un moment, en fait, je vous regardais jouer et je regardais au milieu. J'étais là, je ne peux pas... Normalement, j'aime bien regarder les autres jouer parce que ça me permet d'avoir un peu de lisibilité sur ce que je veux faire après et tout. Et en fait, au bout de 2 tours de jeu, j'ai fait, mais de toute façon, ça ne me sert à rien. Je ne peux pas avoir de visibilité sur ce qu'il y aura au milieu, sauf à partir du moment où du coup, on a arrêté d'acheter au milieu. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, j'ai aucune visibilité sur rien, ça ne me sert à rien. Sian, Géraldine.
Alors non, je suis désolé. Là, je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. En fait, quand vous piochez votre carte, vous avez déjà une visibilité sur votre main. Vous savez quelles sont les ressources dont vous disposez. On parle du marché tout le temps, parce que c'est les cartes
c'est
les plus
le
bling bling.
Oui.
Non mais en vrai, le cœur du jeu, au départ, c'est surtout d'acheter des ressources qui valent 2 et de cramer des ressources qui valent 1. Et donc, je suis désolé, mais on dit le marché. Le marché, c'est combien de cartes, Lobo ? Il y a combien de cartes dans le marché ?
Il y en a 6 en permanence.
Il y en a 6. Ouais. Bon, les cartes de ressources, que ce soit ressources multicolores, rouge, vert, il y en a 5 ou 4. Il y a 4 ressources seulement. Les cartes à 2, les cartes qui valent 2 de chaque ressource.
3.
3, donc ça fait déjà
3. Il y a rouge, vert, bleu.
Et il y a une carte fixe dont on n'a pas du tout parlé. Enfin, on a vaguement évoqué en début du podcast, mais c'est celle qui dit pour un rouge, un vert, un bleu, vous cramez une carte. Donc, ça fait que le marché est composé de 6 cartes, mais en réalité, il y a 4 cartes qui sont là en permanence. Donc, parmi les options en fait, qui se présentent à vous, il y a en fait 10 options. Et sur 10 options, il y en a 4 qui sont toujours identiques. Donc, en fait, il y a la moitié des options quasiment qui sont en réalité toujours les mêmes au cours de la partie.
Mais qui ne sont pas forcément les meilleures.
Si
tu veux gagner à la fin, tu as intérêt plutôt à acheter des cartes au marché et des cartes qui te rapportent beaucoup de points.
Alors non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord et c'est justement un des défauts du jeu pour moi. C'est qu'en fait, pour battre les boss, en vérité, d'après la courte expérience que j'en ai, il faut d'abord se concentrer sur l'énergie. Les ressources bleues, vertes et rouges et les prendre intelligemment et cramer intelligemment des ressources. Et ensuite...
J'ai vu des gens qui ont tué 2 boss sur les 3 et qui ont perdu. Parce que, à côté de ça, la personne en face avait plein de cartes avec des grosses valeurs. Et finalement, quand tu vois, si tu achètes 3 cartes au marché qui te rapportent 3 points, c'est comme si tu avais réussi à vaincre un boss qui t'en rapporte 9.
Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, Globo. Bien sûr qu'il ne faut pas négliger le marché, puisqu'il représente 6 dixièmes des options du jeu. Donc, c'est important. De ne pas négliger le marché. Mais ce que je veux dire, c'est que les tours sont quand même à 50% prévisibles en réalité. T'as quand même des options. Fondamentalement, moi je pense que c'est surtout que les enjeux du jeu ne te plaisent pas, Flavie. T'as pas envie d'avoir un deck... est-ce que t'aimes vraiment les jeux de deck building, tu vois ? Je pense qu'il y a une vraie question à se poser là-dessus.
Si, il n'y a pas de souci. C'est juste que...
Quand ça raconte pas une histoire, vraiment ?
Ah bah, je préfère toujours quand ça raconte une histoire. Mais non, je pense que là, on était trop nombreux pour moi, en fait, pour
d'accord,
ce jeu.
Okay.
Point.
Okay.
Ouais. Je pense que ce jeu-là, à 3, je vais être folle. Je vais être debout tout le temps, là, à regarder ce qu'il y a sur la carte, en train de faire « Non, je voulais prendre cette carte-là, tu l'avais tranquille, je te file un poulet enfin, !»
on parle toujours
de poulet,
du...
Oui, je sais.
On n'avait jamais testé à 6 non plus. Hein.
Ouais. Donc, je pense
au plus
3,
nombreux, on a joué à 4, et à 4, ça va.
Et à 3, je suis sûre, c'est pour moi. C'est juste que là c'était trop long. Okay. Enfin, je me connais. Enfin, là, juste, okay. Il y a des moments où moi, quand Flavie pas toujours entertained, Flavie fait n'importe quoi.
Ok. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant du bout en bout, en fait. Je partage pas du tout votre opinion sur le jeu.
C'est génial
parce
qu'on
vieillit. Mais on parle pas du même endroit,
Romaric. En vieillit. Ouais.
Enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, hors podcast, mais c'est parce que t'as pas beaucoup d'expérience dans les jeux de plateau, peut-être aussi. Mais ça, c'est un jeu basique, out of basic. Hein. Ça, c'est vraiment, on sent que même on est en 2009 quand ils l'ont réfléchi, ce jeu. Mais vraiment, mais je veux pas être méchant. Mais le marché du jeu de plateau a évolué en 10 ans, mais comme jamais. Quoi. Enfin, il y a 300 jeux qui sortent par mois. Là, on a une époque où il y a 10 jeux qui sortent par mois. À l'époque, il y a Tigre et Euphrate, Pandémie. Tu vois, t'as quasiment rien. T'as les premiers jeux de Bruno Catala.
Alors...
En coop, hein, je parle de la coop.
Ok, mais je te dis, Daybreak, déjà, c'est un jeu moderne de deck building qui fonctionne très très bien. Et on l'a dit tout à l'heure avec Géraldine, il est 100 fois mieux que Gothica. Je prends pas le jeu. Et écoute, récemment, on nous a quand même sorti Saint Seiya deck building. Quoi. Je veux dire.
Oui, mais ça c'est du merch, ça.
Ouais,
c'est court l'acheter.
Ouais, c'est.
Bah, c'est ça.
C'est clair.
Parce que tu sais qu'il sera en rupture. D'ailleurs, ce jeu, on peut le trouver ou pas, ce jeu-là, Dark Gothic?
Ouais, si tu le commandes. Alors, on le trouve pas trop en France.
Ouais, mais sur
mais
Internet,
si tu
ça
le
se...
Ouais, si tu le commandes sur Internet, sur le site de l'éditeur,
balles,
voilà.
Ouais.
Ah, donc ils vendent encore, ils existent
ouais,
encore.
Ouais,
okay.
Ouais.
Ah oui, Flying Frog Productions, j'ai été sur leur site il y a quelques minutes là pour voir justement. Mm. Et tu vois la liste des jeux et tu fais, ah, je voulais en citer quelques-uns, j'en connais aucun. C'est. enfin de nom, de réputation, etc. Mais voilà. Bon, ok, ouais. Très bien. Donc, aucune sensation particulière à débriefer, un dernier truc peut-être.
Alors, c'est rigolo. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Ouais. Et les premières parties qu'on a faites avec toi et avec Yann, j'ai dû enchaîner 6 ou 7 défaites, quoi. Et pourtant, j'avais envie de continuer à jouer.
Voilà. C'est combien de temps une partie à 3-4 le temps de jeu?
Je sais pas, une heure.
Une heure, ouais, ça va. Ouais. Ok.
Après, ça dépend aussi beaucoup de est-ce que c'était partie de début ou est-ce que tu maîtrises le jeu, quoi. Voilà, au début, il nous fallait plus de temps parce qu'on était vraiment le nez sur chaque carte, sur... voilà.
Ouais, moi, okay. J'ai trouvé qu'il y avait des mécaniques intéressantes. Les mécaniques de prise de cartes qui viennent te pourrir ton deck et tout ça. T'as vu ça dans le deck building
ouais,
cartes,
ouais.
Donc quoi, par exemple? Je sais pas, j'aime bien.
Moi,
bien
je conseille aux gens, ceux qui aiment le deck building un peu comme ça et en coop, mais avec un peu de compète, jouer à Mage Knight. C'est un banger, c'est le number one. C'est un jeu de plateau, fantasy. Et c'est qu'on fait son deck building, on peut faire des campagnes, la coop, du PVP, du PVE, on fait ce qu'on veut. C'est full deck building. C'est magistral comme jeu, magistral. Je conseille à tout le monde.
Ok, ça m'intéresse.
Faudra
beaucoup.
Faudra le sortir. Ouais. Mage Knight.
Ok. Et c'est sorti quand ça? C'est récent.
Il y a 10 ans.
Ok, ouais, c'est plus moderne déjà.
Mais c'est sorti en France il y a peut-être 5 ans, quoi.
C'est un peu comme Dark Gothic, on voit que c'est un jeu d'il y a 10 ans quand même.
Alors Mage Knight, c'est un gros... le mec qui a fait Mage Knight, mais je me souviens plus de son nom, c'est un très très connu, un ponte du jeu de plateau.
Un américain ou...
Un polonais, je crois, ou un tchèque.
Ah...
Knavil.
Non, d'accord, ça me dit quelque chose, ouais. Ok, je vois le genre. Écoute, ça à tester du coup. Et c'est pareil, t'as des cartes négatives comme ça qui viennent te pourrir ton deck.
Ouais. Non, mais souvent dans les jeux de deck building, il y a des trucs négatifs. Mais souvent, les jeux de deck building, c'est quand même de la compète. Hein. Il n'y a pas de coop, quoi. Je réfléchis.
Ouais, c'est étonnant.
Le but, c'est d'avoir la plus grosse pile de cartes.
C'est ça, moi, c'est le meilleur deck.
Le meilleur deck. Non, je sais pas. Après, dans l'ambiance Cthulhu et tout, tu voulais ajouter quelque chose?
Alors si, nous, on a joué à Hogwarts, en deck building.
Hogwarts Legacy?
Non, le jeu Harry Potter, et pour le coup, en deck building. Et là, on est en coop, vraiment, puisqu'on joue donc un des protagonistes. Et on se bat contre les forces du mal. On a des lieux. Et si on arrive, enfin si les trois lieux sont passés, en gros on a perdu, et que qu'on n'a pas tué les méchants, on a perdu. On fait toutes les années. Notre deck va évoluer au fil des années en fonction des cartes qu'on va acheter aussi en fait sur un espèce de marchand. On a des cartes force du mal qui vont tomber à chaque tour.
Mais alors qu'est-ce qui fait que c'est coop?
Parce qu'on se bat tous contre le méchant.
Mais est-ce qu'on peut s'échanger, céder? Tu vois, moi j'utilise une énergie.
Alors
pour
oui.
Boost, voilà. Là, il n'y a vraiment rien de tout ça, on ne peut pas céder, j'utilise ma carte.
Non, on peut se pourrir les uns les autres.
Ouais, c'est ça, mais on peut
oui,
se pourrir en fait.
C'est
pas de la coop. Du coup.
C'est de la coop parce qu'on ne se pourrit pas.
Parce que tu vois, par exemple, je vais vous expliquer un truc que j'ai fait. À un moment donné, j'ai cramé une carte qui vous pourrissait la vie de mon deck. Je l'ai fait pour vous. Alors, c'est pas de la coop. Mais non, mais.
Merci.
Mais
qu'est-ce que c'est beau quand même.
Ouais, mais franchement, t'es trop bon, quoi.
Non, attends, j'avais
Merci.
Acheté.
Oh
ah, non, mais vous sous-estimez. Non, mais je vois bien.
C'était
que...
quoi
en
C'était
fait,
que
en
Romaric,
fait...
il voulait pas perdre. Ça lui faisait peur, la Shadow.
Bah ouais,
et donc
ça
il voulait
quoi,
nous aider.
Carte ça
en fait, la carte, elle faisait défausser vos gears. Mais elle me faisait piocher des cartes.
Mais tu plaisantes, tu
moi,
l'as utilisé 10 fois. Tu l'as utilisé 10 fois, cette carte. Tu l'as jamais défaussée.
Mais si, je l'ai défaussée un
à
moment donné.
À tous tes tours, tu nous disais, défausser un gear, oui, nous on était tous là. Romaric, on n'achète plus de gear. On n'achète plus de gear. À tous les tours, tu nous fais défausser.
Ça faisait 15 plombs que je cherchais à m'en défausser et à la virer de mon pack. Seulement, j'y arrivais pas parce que pour le faire, il fallait qu'elle soit dans un lieu précis, tu vois.
Ah,
soit dans
oui.
un défaut. Enfin, c'était compliqué en fait. Et puis aussi, j'étais tenté. C'est-à-dire que tu te dis, ah ouais, mais je pioche. Et les autres, ils défaussent des gears. Et donc, il y a un moment donné où j'ai fait un sacrifice qui est passé complètement inaperçu, apparemment, puisque vous en avez rien à foutre. J'ai compris.
Mais en quoi,
tu nous en as pas parlé non plus.
Toi.
Non, Bah, si je l'ai dit à un moment donné, mais personne n'écoutait. Bah, ça m'aide parce que j'aurais pu choisir de garder cette carte pour piocher une carte.
Est-ce en que fait. C'est le moment où je discutais de François en curé.
Tu vois.
Parce que ça explique pourquoi.
Et tu fais le choix à un moment donné de. Il y a un moment donné où elle est dans ta main et tu fais le choix de la cramer dans ta main sans piocher parce que tu te dis. C'est l'occasion de la cramer et pour arrêter de pourrir les autres. Et tu te dis, bah, c'est bon, j'ai plus besoin de piocher tant que ça. Et tu vois, il y a des choix comme ça que tu fais. En fait, c'est un jeu, je trouve, qui est un. Ah, je sais pas comment. C'est-à-dire que oui, c'est pas un jeu de coop, comme tu le dis, où on s'entraide. Mais c'est un jeu de coop où à un moment donné, on coopère parce qu'on choisit d'éviter de se pourrir. Et en fait, quelque part. Mais oui, mais si, en fait, quelque part, ce jeu, il émule le jeu d'horreur. Je vous rappelle qu'on est dans un truc de... L'objectif du jeu, c'est de, c'est d'émuler un style de survival horror. Et c'est américain, donc dans le survival horror américain, les Américains, parce qu'ils ont une vision de l'humanité qui est délétère et détestable, à savoir, ils pensent qu'en cas de situation horrifique, on va tous se bouffer les uns les autres. La coopération pour eux dans un jeu d'horreur, c'est déjà de songer au fait de ne pas se pourrir les uns des autres quand on est face à une situation horrifique. Et donc en fait, le jeu, il parle de ce type de coopération-là qui est de savoir en fait se dire « Cette fois-ci, ce tour-ci, on va arrêter de se pourrir la gueule. » Tu vois, malgré tout, il y a eu un moment, quand j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit « Arrêtez, on arrête tout, arrêtons de se taper sur la gueule et luttons contre la menace. » Il y a eu un vrai moment de film d'action américain à la... Mais si... Mais...
Alors parlons-en, vas-y. Alors, vas-y. Parlons-en à cœur ouvert. Moi, vas-y. Je trouve qu'au moment où t'as tapé sur la table, t'as créé un froid. Il y avait un avant et un après. Il y avait une partie qui était avant ce moment-là, qui était complètement différente de ce qui s'est passé après. Il y a eu un petit froid sur le moment. Après, on a bien rigolé, on s'en fout, tu vois.
On s'est foutu de voilà. Ta gueule. Hein.
Mais t'as vu que pendant un moment, on n'osait plus rien faire. On était là, on est. Oui, Romaric, on jouait nos tours en 20 secondes et on faisait plus rien. Et après, t'as vu qu'à la fin, on s'en foutait un peu, on a continué à racheter dans le marché.
Exactement, Globo, il a snaké, il a continué.
Il a pas snaké. Mais je cite.
C'est pas.
Bon, je sais. Romaric, il a dit qu'il fallait pas, mais.
Ah oui, c'est tant ça pis. Que t'as dit. Romaric, il a dit qu'il fallait pas, mais allez, j'y vais.
Oui, mais Romaric, c'est pas le leader au sens où il faudrait suivre ses ordres, puisqu'on est en compétition. Donc c'est ça qui est
intéressant. Oui, mais t'es intervenu en mode coop. En mode, hey, les gars, maintenant on déconne plus, ok. Moi je veux gagner.
Même
et si
pas
je...
en mode coop.
Pour
en mode
gagner, il faut que vous arrêtiez de chier dans la colle, ok. Mais
alors,
non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, à cause de vous, on va tous perdre.
Oui, c'est ça. Dont moi.
Mais est-ce que c'est pas l'essence même du survival horror pour les Américains? Regardez les séries en fait américaines sur ce c'est... thème.
Ouais, c'est une belle
regardez, regardez
ouais,
juste le jeu de rôle, la Zombie Cinéma.
Voilà, Zombie Cinéma, l'appel de Clu-Clu. Tous ces jeux américains, mais même les
appels de Clo-Clo.
Enfin, quelque part, Gothic Dark pour un jeu qui de cette époque-là, je trouve qu'il émule quand même vachement bien le genre auquel il se rattache. Et pour un deck building, enfin moi je suis désolé, je prends Saint Seiya deck building qui est pour moi le pire exemple qu'on puisse faire. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la série ce qu'on y fait. Je veux dire, il y a plein de deck building dans lesquels c'est juste nul, tu vois. Il y a plein de deck building dans lesquels les mécaniques Dominion, ça raconte quoi l'histoire de Dominion? À quel moment t'as une sensation d'être. Tu vois, c'est juste des mécaniques. Alors, c'est très élégant, c'est très sympa.
Bah, y a des cartes, mais ça pourrait être des tokens,
c'est
pareil.
C'est ça. Là, j'ai trouvé qu'il y avait. En fait, si on joue bien à ce jeu, entre guillemets, si on fait l'effort d'arrêter de manger des moham, là, et de se dire. Ok, je vais prendre le jeu au sérieux, je vais vraiment essayer d'imaginer que ça c'est de la ressource d'intelligence, ça c'est de la bagarre, ça c'est le méchant, il nous hante avec le dé machin. Si on prend ce jeu au sérieux, eh bien je pense qu'il est bien fait et
mais
qu'il est
bien le
genre.
Mais j'ai pris ce jeu au sérieux.
Non mais le
et
jeu.
En prenant ce jeu au sérieux, j'ai vu que j'avais perdu au deuxième tour.
Non mais le jeu il est très bien, je pense à 3-4 effectivement, il doit être très très bien. Je suis d'accord, je vois aucun défaut à 3-4.
Même à 2, il est
oui,
pas mal.
Même à 2, je pense
ou
que
alors...
l'expérience optimale, c'est à 2, 2 joueurs qui savent parfaitement jouer. Et là, je peux te dire, c'est la grosse bagarre.
Ou alors à... Alors moi, je pense pas à 2, je pense à 3, parce qu'à 2, t'as une mécanique d'adversité qui est beaucoup plus franche. Tu sais que si l'autre te demande de l'aide, c'est qu'en fait, il a
besoin
d'utiliser...
Non, mais tu demandes pas d'aide à 2, je pense. Hein.
Non, mais à 3, en fait, l'équilibre à 3 fait que quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, tu sais jamais si tu lui demandes de l'aide vraiment parce que t'as besoin d'aide contre l'autre. Ou que enfin, à 3, la dynamique sociale est vraiment très différente. À 4, tu peux te retrouver un peu à 2 contre 2 ou avoir des alliances. À 3, il n'y a pas d'alliance possible, donc il y a un côté...
Alors, il y a aussi dans le jeu des decks, enfin des règles full coop, mais je les ai pas testées. Mais je trouve que, enfin dans les parties qu'on a fait nous, la Shadow, elle est pas montée très très vite. Et du coup, je vois pas une grande difficulté par rapport à l'adversité. Quand tu joues en coop, par exemple, les effets de fight s'appliquent à tout le monde. Tu vois, typiquement, quand tu tues le boss et qu'il dit discarder les gears, machin, etc., et ben c'est tout le monde à la table qui jette, etc.
Ce qui fait que du coup, tu dois te mettre d'accord avant d'aller friter le boss parce que potentiellement, tu peux pourrir les autres.
Et donc, le but, c'est quoi? C'est que tout le monde gagne?
Non, c'est de vaincre l'adversité des boss du jeu, quoi. En sachant que sur le site aussi, ils ont sorti... En gratuit, en PDF, des compléments de règles, c'est-à-dire, y a un petit côté narratif avec les trois monstres se trouvent dans des lieux différents. Chaque lieu a des petites règles en plus. Et il y a un quatrième boss qui est le boss final. Et donc, ils ont, tu vois, sur le site des petits add-ons comme ça. Alors, nous, on l'a fait une fois, cette partie-là, parce que ça te rajoute encore des règles où il y a déjà plein de trucs à se souvenir.
C'est ça qui était génial avec les vieux Kickstarter, les premiers Kickstarter entre 2011 et 2015, quoi, en gros. C'est qu'il y a une communauté de dingue. Tu vois, déjà pendant le Kickstarter, ça parle, c'est un truc, c'est effervescent. Et du coup, et après, le jeu vit des années, il est patché, il a des V1, des V2, des V3. En fait, il y a des fans qui font vivre le jeu sur des forums, sur des Discord. Et c'était ça le concept du Kickstarter à la base. Et c'est pour ça que le jeu, encore aujourd'hui, si tu vas sur Board Game Geek, il y a énormément de notes, il y a énormément de... Comment ils appellent ça ? Des supports, quoi. Des supports. Tu sais, tu peux télécharger plein de PDF dans toutes les langues, en italien, en espagnol, en français. Tu peux, il y a plein de trucs.
Ouais, c'est intéressant. Mais en fait, à un moment donné, le jeu de société est devenu tellement pléthorique que c'était plus possible. En fait, tu pouvais plus avoir ce genre de communauté.
Tu ne jouais pas qu'à un jeu, quoi. À l'époque, on avait notre jeu et on y jouait à fond.
C'était une autre manière de... Ouais. On consommait pas le jeu de société comme des produits qu'on joue rapide et qu'on jette à la poubelle.
Je sais pas comment on consomme aujourd'hui, je consomme plus trop, mais... J'achète plus de jeux de société, mais... Ça prend trop de place.
Alors, selon Jérémy Klein, encore une fois, qui est ludothécaire et qui a des chiffres un peu sérieux là-dessus, chaque jeu n'est joué au maximum que 7 fois. Et je pense que... Mais là, c'est une intuition personnelle, pour le coup, c'est pas documenté, mais je pense que ce chiffre diminue encore aujourd'hui. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cet aspect de consommation, j'achète un jeu, je le monte 2-3 fois, et puis après, je l'oublie, quoi.
Mais comme notre vie en général, en fait. Enfin, ça va avec le reste.
Exactement, on l'avait bien vu hein, quand on avait analysé les fameux jeux de cartes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Revolver Noir, où on avait parlé de ce sujet déjà. Eh bien, merci beaucoup à Globo, Sian, de nous avoir amené ce jeu qui a l'air d'être assez introuvable. Enfin, pas introuvable, mais une petite pépite perdue qui a connu son heure de gloire. Et tout. Enfin, merci beaucoup. Moi, j'ai bien aimé de l'ADA, plein de choses. Réussir à raconter des petits moments comme ça de coopétition à travers un jeu de cartes de deck building, je trouve ça quand même remarquable. Mais bon. J'entends aussi tous vos bémols. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.